Angle mort du 14 mai, salut tout le monde, merci d'être à l'écoute, je le souligne parce que c'est toujours le fun de voir les chiffres monter, de savoir qu'il y a des gens qui t'écoutent, qui réagissent, etc., puis que c'est en progression. Alors on part de zéro hein, quand on fait un petit podcast comme ça, surtout quand il n'est pas vidéo. En audio, c'est toujours moins populaire, en vidéo, ça l'est déjà une coche de plus. Alors, l'autre projet s'en vient. Je voulais partir hier mon vidéo. Tu sais, je vous ai dit que j'ai acheté déjà ma caméra, une GoPro Max, etc. J'ai fait tous les tests. D'ailleurs, c'est tellement simple. Quelle belle machine. Je sais pas si j'en ai parlé, là. Des fois, je raconte bien des affaires. Mais j'avais fait beaucoup de recherches sur YouTube pour trouver la bonne caméra pour faire du live sur Facebook, entre autres. Parce que quand j'avais commencé ça, il y a quelques semaines, j'ai fait, j'ai beau dire, on y va, puis on ajuste au fur et à mesure, mais il y avait comme un minimum, c'était plate. Puis là, je trouve qu'il me manque une petite twist de concept. Tu sais, j'ai le titre, là, c'est Chef Boislardy, c'est l'ancien nom du podcast que vous écoutez. J'ai le titre, je sais à quoi ça va ressembler éventuellement visuellement, mais pour commencer, on dirait que juste jaser comme je vous fais là, là il y a comme de quoi, on dirait qu'il manque un petit quelque chose. C'est la raison pour laquelle, puis il n'y a pas d'urgence. L'important, c'est que Angle mort, ça continue tout le temps, puis ça n'arrêtera pas non plus. Ça fait que c'est bien le fun de savoir que, tu sais, il y a un projet qui est vivant, puis il n'y a pas de presse à lancer l'autre, mais tu sais, j'ai vraiment... Maintenant, je suis prêt, là. Tout est prêt. Mais hier, j'ai hésité en me disant, il me manque encore comme un genre de concept supplémentaire que juste moi qui jase avec des gens qui interagissent. Puis ça va être ça, la twist, c'est que ça va être live, tu sais. Il y a des questions, tu as des commentaires, ça va ressembler à une ligne ouverte. J'ai entendu dire que José Arsenault puis le Doc Mailloux, qui étaient au 93 avant, puis ils ont tiré la plug sur eux autres, ils sont ouverts un Patreon, etc., puis ils font ça. Avec Zoom, ça a l'air ramasser quelqu'un comme une vraie ligne ouverte. Fait que je vais aller examiner ça parce que c'est ça, dans le fond, que je veux, moi. C'est que les gens puissent appeler en vidéo, comme ça se fait avec Instagram, d'ailleurs. Ça fait que tout ça pour dire que c'est en route, puis c'est bien le fun. Chloé m'écrit sur le thème que j'ai pris aujourd'hui, qui m'intéresse énormément, le thème de la vérité. Alors, elle dit, voici deux questions. L'expression « toute vérité n'est pas bonne à dire » est-elle vraie? Si oui, à quel moment cette vérité n'est plus bonne à dire? Ici, je fais référence à une vérité, pas un avis ou une opinion. Bon, je commence là-dessus, parce que moi, c'est des sujets qui m'interpellent au bout. C'est-à-dire que je me souviens une fois que j'avais jasé avec Éric Duhaime à notre émission. Je dis toujours Éric Duhaime, alors que j'ai travaillé un an de temps avec, puis que je m'entends très bien avec, etc. Puis, tu sais, mais c'est juste que, tu sais, si je dis Éric, il y en a qui vont se demander qui. Fait que je veux pas que ça ait l'air comme froid et distant, Éric Duhaime. Tu sais, qu'on donne les deux noms, c'est drôle, hein. Si je dis, ouais, hier, j'ai jasé avec Mike Ward, ça a l'air comme si, dans la vraie vie, je dirais Mike. Mais si je fais juste dire Mike, il y a du monde qui dit Mike qui. Alors, c'est juste pour le souligner, là. Pour pas que ça ait l'air comme si c'est, ouais, lui, là, je le connais plus, là, c'est pas vrai, là. Donc, je reprends l'expression « toute vérité n'est pas bonne à dire, est-elle vraie? » Bien, alors moi, j'ai un critère là-dessus qui est à moi. Après, je peux vous parler d'autres critères que j'ai déjà eu connaissance, mais mon critère à moi, c'est que je donne aucune vérité, même si ma quête, c'est carrément ça, là, moi, j'ai toujours été dans la vérité, puis pas que je la détiens, mais que je la cherche. C'est très différent. Mais si tu la joues en disant « moi, je la sais, la vérité », il y a un côté prétentieux à ça qui fait que ta com, je sais que je t'achalant avec ça, mais que ta com ne se rend souvent pas. On préfère avoir une communication avec quelqu'un qui est transparent puis qui est capable d'avoir une certaine humilité. Game que je faisais complètement à l'inverse quand je suis arrivé à la TV. Ceux qui m'ont vu, c'était vraiment... J'étais ouvertement le fanfaron de la TV. Puis ça faisait partie de la mise en scène du concept de l'émission, là. Mais effectivement, tu sais, c'est très repoussant. Puis je pense peut-être même un peu plus au Québec pour toutes sortes de raisons. Fait que moi, mon critère, quand je parle de vérité, c'est que j'émets aucune vérité qui viendrait avec une fin de non-recevoir. Et je vais vous donner un exemple parfait de ça. Je suis très content d'en parler ce matin. La fameuse expression et intervention qu'on a tous entendue, qu'on a tous reçue, et que probablement on a toutes faites, « t'as donc l'air fatigué ». Au bas, « t'as l'air fatigué ». Moi, je déteste cette expression-là parce que à partir du moment où tu dis ça à quelqu'un qui n'est pas sur le bord de son lit à 10 heures le soir puis qui peut effectivement dire « Ah ouais, ben merci, justement, je vais aller me coucher, je pense que ça va me faire du bien. » On sait bien que c'est pas là qu'on dit à quelqu'un « T'as l'air fatigué, c'est en plein jour, au bureau, qu'on croise sa rue. » Qu'est-ce que tu peux améliorer à cette situation-là? Une fois que quelqu'un te dit ça, veux-tu même dire toi, quelle réaction tu peux avoir productive? « Ah ouais, j'ai l'air fatigué. Merci de me dire de quoi que j'avais pas besoin de savoir. Parce que si j'ai l'air fatigué, puis que je suis fatigué, ben je vais prendre les moyens pour, puis c'est certainement pas toi qui vas changer quoi que ce soit avec ton commentaire. Et il y a des gens qui m'ont déjà dit, ouais, mais les gens qui disent ça, t'as l'air fatigué, c'est beaucoup pour... c'est par empathie, tu sais. C'est comme genre, ah, oh, t'as l'air fatigué, veux-tu m'en parler de je sais pas quoi? Ben la réponse, c'est non, c'est pas bon. C'est pas t'as l'air fatigué, puis ça m'aide. Ah oui, laisse-moi t'en parler. J'ai appris que je fais une dépression chez mon psychologue ou whatever. Si ça t'intéresse de parler avec quelqu'un, ben tu jases, puis tu poses des questions ouvertes, etc. Mais tu fais pas un commentaire sur lequel, anyway, il y a aucune possibilité d'améliorer quoi que ce soit. C'est ça mon point. Ça fait que pour moi, le taux de vérité n'est pas bon à dire. Il est là, mon critère. Je refuse de dire... Je vais vous donner un autre exemple qui va s'en venir éventuellement. Là, je nommerai personne, là. Mais bientôt, je vais avoir une conversation avec un de mes amis. C'est ça, je donne pas de détails, là. Mais je vais avoir une conversation avec un de mes amis sur la business dans laquelle il travaille, puis... sa job à lui, puis, tu sais, bon. Et pour toutes sortes de raisons, je vais être obligé d'y faire une analyse réelle et sincère, que je pourrais éviter, mais c'est parce que ça a comme juste pas de sens. Et je vais commencer mon propos en disant, écoute, c'est pas mon habitude. Je sais déjà là, ce que je vais dire, c'est pas mon habitude, mais j'ai rien de positif à dire par rapport à l'environnement de travail où que t'es, puis ce qui va arriver chez vous. J'ai rien... Puis c'est pas moi, puis c'est une parfaite illustration que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais dans ce cas-là, j'ai comme pas le choix. Puis je vais devoir faire ça comme intro parce que je peux pas faire une critique ou amener un point négatif avec un début de brainstorm en disant peut-être que, si tu veux, on va essayer de trouver des solutions, il y a peut-être une autre façon de voir ça, blablabla. Comprenez-vous? Ça veut dire que même quand je sais que ce que je vais dire... est une vérité, puis qu'il n'y a rien de positif à cette vérité-là, c'est très rare que ça arrive, parce que je préfère me taire, mais quand je vois ça arriver, puis je vais devoir faire ça par souci de transparence, à ce moment-là, l'honnêteté aussi, là, ben je vais faire une intro à ça, comprenez-vous? Je vais vraiment dire. Fait que, donc, moi, mon critère, en résumé, de toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est que je pense que toute vérité est bonne à dire, la façon de le dire fait une grosse différence, là, c'est assez classique, mais que j'évite de parler de sujets pour lesquels, en bout de ligne, la conclusion va être juste un arrêt de tout, puis qu'il n'y a aucune solution, puis c'est juste du négatif. C'est juste une analyse négative. Les chroniqueurs politiques, règle générale, sont des gens qui ont des analyses pertinentes, mais qui n'ont pas le souci de dire... Donc, compte tenu de ce que je viens de te dire, je pense que vous n'avez pas le bon candidat au Parti conservateur, mettons, là, Erin O'Toole, là, qui est pour le Parti conservateur Canada, qui serait peut-être en train de devenir la relève là, d'Andrew Scheer, là, pour... ils vont avoir un colloque, là, supposément, fin juin, là, pour décider leur prochain chef. Puis là, ben moi, quand je lis... ceux qui disent « Ah, Erin O'Toole pourrait être un bon candidat », puis là, tu regardes ce qu'ils décrivent étant ses qualités, c'est exactement le profil d'Andrew Scheer, puis il n'a pas été élu. Ça fait que c'est comme... Sauf que ce bout-là, une fois que tu as fait l'analyse, bien, tu n'es pas obligé de te rendre à dire « Voici ce que je ferais, voici ce qu'il faudrait changer, voici... » Ça, c'est à l'interne des partis que ces affaires-là ont lieu. Mais les analystes ne se cassent pas la tête à savoir, à dire « Voici une fine analyse, je crois à ce que je dis, puis... » Compte tenu que c'est négatif, je vais vous donner aussi des pistes de solutions. Ce bout-là, ils le font pas. Moi, je le fais. C'est-à-dire que, en un mot, quand je dis que je le fais, pas en voulant dire que je le fais tout le temps, partout, mais mon critère, c'est que je refuse d'être négatif si mon négatif fait juste fermer la conversation sur du négatif. Espoir zéro, pas de solution, pas de brainstorm, pas de nouvelle façon de voir ça. Moi, dans ce temps-là, je trouve que la vérité n'est pas bonne à dire. Voilà, ça, c'est ma réponse à la première question. Deuxième, pourquoi un fait ou une vérité peut parfois, même souvent, être interprété comme une opinion? Alors là, elle rentre dans un exemple personnel par rapport au virus, puis elle explique que Chloé travaille dans le domaine de la dentisterie, puis qu'elle dit, écoute, si à quelque part on infecte un patient, bien, c'est parce qu'on n'a pas fait la job, puis c'est pas une opinion. C'est pas une opinion de dire, on n'a pas fait la job, on aurait dû éviter que le virus... partent, etc. Bon. Alors, ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire la notion de vérité versus opinion. Moi, ce que je remarque, c'est que dans un premier temps, les gens qui ont des opinions puis qui veulent absolument les faire passer vont leur donner le couvert d'une vérité. Alors, ils vont faire passer une opinion pour une vérité. Par exemple, ils vont s'appuyer sur une donnée X, Y, Z, puis ils vont dire « voilà mon opinion, c'est donc une vérité ». Rappelez-vous, je vous ai déjà parlé de Manon, une employée que j'avais dans le temps que j'avais mon bureau de gérance, puis qui m'avait dit « c'est démontrer que les hommes sont plus faibles que les femmes ». Là, j'avais fait « comment tu fais de démontrer ça ?» Je dis, c'est vrai ou faux, jusque-là, je ne suis même pas rendu là, mais basé sur quoi? Puis le lendemain, elle m'avait amené un livre où elle montrait qu'il y avait deux tiers de suicides. Deux tiers des suicides, c'était des hommes. Et elle, dans sa tête, vois-tu le chemin qu'elle a fait? C'est qu'elle n'était plus dans l'opinion. Elle était dans les faits. Mais sa prémisse est fausse. C'est-à-dire que pour elle, le taux de suicide égale être faible. Ça fait qu'elle, elle part avec une prémisse qui est fausse. Puis après ça, elle s'en va, puis elle dit « voici pourquoi c'est pas une opinion, voici pourquoi c'est une réalité ». Ça, vous pouvez retrouver ça à mille occasions. Des gens pour qui le début du raisonnement, c'est déjà une erreur, puis après ça, on s'en va avec cette erreur-là, puis on la traîne tout le long. À contrepartie, il y a aussi des vérités qui sont maganées parce qu'à quelque part, la conclusion ne fait pas notre affaire. Le climat, c'est exactement ça. Les gens qui sont climato-sceptiques, vous remarquerez d'ailleurs, ça c'est très intéressant, tous, sans exception, tous les climato-sceptiques sont de droite. Puis de droite claire, pas de droite genre centre ou whatever, sont tous de droite. L'explication de Yuval Harari dans son livre, un de ses trois livres, là, il a fait trois livres, dont le premier, Sapiens, qui est un gros hit que je recommande très, très, très chaleureusement, chaudement, pas chaleureusement, il dit « Les gens de droite, c'est des gens pour qui l'impact individuel est plus important sur le sort de ce qu'on vit que l'impact collectif. » C'est ça qui fait qu'on devient de droite ou de gauche, d'ailleurs, dans la vie. On devient de gauche quand on pense que la collectivité a une influence sur nous plus grande que notre propre libre arbitre, puis on devient de droite quand on pense que c'est l'inverse. C'est pour ça que la droite est très méritocrate. La droite, plus que la gauche, pense qu'il faut gagner notre ciel, que si on travaille plus fort, il faut pouvoir avoir le fruit de tout ça, etc. C'est plus à droite, ça, comme pensée. Alors, c'est pas faux. Je vous dis juste, c'est des tendances intellectuelles. Et ce que Harari dit, c'est qu'il n'y a aucune solution individuelle au problème du climat. C'est uniquement des solutions collectives parce que c'est uniquement un problème collectif. Donc, c'est un problème qui a été fait collectivement parce qu'on est trop sur Terre, parce qu'il y a trop de gaz à effet de serre, parce que là, chacun y va là, de sa raison en disant « ça, c'est 10 %, non, ça vaut 30 %». C'est là qu'il y a un débat. Là. Il n'y a pas de débat sur le fait que la température monte, etc. Ça se mesure. Là. Ça fait qu'à partir du moment où ta pensée, c'est une pensée qui est plus à droite et que toi, dans ta tête, tu es responsable de ton sort, puis que tu réalises que la logique du dérèglement climatique va au-delà de toutes les interventions individuelles que tu pourrais faire, bien là, ton système est fucké. Ton système, il tilt, comprends-tu? Tu fais comme... Donc, il y a un paquet de gens à droite qui nient le problème au lieu de vouloir contrevenir à leur façon de voir les choses et donc d'embarquer dans l'idée que le dérèglement climatique ne devrait pas avoir ni de droite ni de gauche. Là, on se comprend, ça n'a juste aucun sens. C'est un constat, c'est appuyé par les gens qui connaissent ça. Puis là, enlevons les complots, là, que genre, ah, mon Dieu, c'est... Enlevons tout ça, là. Faisons juste garder c'est quoi les faits, qu'est-ce qui est observable. Bien, à ce moment-là, tu ne devrais pas être ni de droite ni de gauche. Sauf que quelqu'un qui est très enraciné dans une mentalité qui est à droite va avoir cette tendance-là, comme je viens de vous expliquer. Donc, à ce moment-là, sa vérité à lui, ça devient quasiment une opinion. C'est-à-dire que la même affaire avec les religions. Je veux dire, tu sais, je voyais, là, j'ai parlé hier sur Twitter un article de Francine Pelletier du Devoir qui dit « Ah, on voit bien, là, maintenant, on impose le masque, mais on interdit aux femmes de porter le voile, les musulmanes. » Je fais « C'est quoi ce lien-là? Ça n'a pas rapport. » Il y en a un, c'est une interdiction imaginaire. Genre, on imagine qu'il faut porter le voile. Puis l'autre, c'est une réalité de santé publique. Moi, quand j'entends les gens qui sont contre... le fait de contre la loi 21 sur les signes religieux, etc., j'ai l'impression qu'ils ont une rhétorique, sans s'en rendre compte, d'handicap. C'est comme... sont handicapés. Ils ne peuvent pas l'enlever, leur voile. Ils sont pognés avec. C'est comme les gens en chaise roulante. On n'est pas pour les discriminer, non, effectivement. C'est un handicap. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas se lever le matin en disant « Ah, oh, sais-tu quoi, finalement, on va me lever debout aujourd'hui. » Mais là, on est en chaise roulante. Mais tu peux enlever ton voile. C'est physiquement très possible. Il n'y a aucune loi de la nature qui l'empêche. C'est que ça veut dire que la logique de « je suis voilé », c'est une logique d'handicap. C'est comme « je ne peux pas l'enlever ». Ben oui, tu peux l'enlever. C'est que comprenez-vous que tout de suite, il y a un problème dans prémisse. Parce qu'après ça, on fait des comparaisons boiteuses à cause de ça. Donc, on pense qu'il y a une vérité, puis que c'est plus une opinion, c'est une vérité de dire « ah ah, on oblige le masque d'un côté, puis on interdit le voile de l'autre, puis là, on mélange tout. » On a passé de l'opinion à la vérité. Ça fait que la vérité, c'est pas évident, parce que des fois, elle est flexible. Les zones grises, ça existe. En politique, il n'y a pas de vérité. En économie, il n'y a pas de vérité. Tout n'est pas profit et perte. Puis il y a une raison pour laquelle les dépenses publiques existent. Puis je reviens avec cette citation-là d'un juge américain, toute simple, mais qui me revient toujours en tête depuis que je l'ai lu, qui disait « L'impôt, c'est le prix à payer pour vivre dans une société civilisée. » C'est voilà. Sinon, c'est la loi de la jungle. On pourrait dire « Non, c'est tous pour un pour tous. » Oublie ça, c'est pas vrai. C'est rendu là, c'est du communiste. Mais on pourrait vraiment alléguer que plus c'est le privé, ce qui est la pensée à droite, mieux c'est. Le système privé, c'est toujours mieux, etc. Puis là, tu te rends compte que des fois, c'est vrai. On a des exemples. Des fois, c'est faux. Des fois, on se dit, mon Dieu, la fonction publique, quelle lourdeur. Les gens ne sont même pas imputables. Ils font des erreurs, mais ce n'est pas grave. Ils ont leur job garanti. C'est tout vrai. Ce n'est pas un système de gestion intéressant. Puis alors, dans ce cas-là, la vérité n'existe pas comme telle. Par contre, les mathématiques, c'est la vérité. Puis encore là, des fois, c'est des vérités à cause des théories, qu'on est dans l'astrophysique, puis on découvre autre chose. Quand Einstein est arrivé, il a bouleversé avec la théorie de la relativité où l'espace et le temps se rejoignaient, etc. Puis quand Galilée a dit, « Hey, savez-vous quoi? La Terre n'est pas le centre de l'univers. » Mais ça, c'est des observations, comprenez-vous, que c'est les moyens techniques de l'époque qui faisaient qu'on croyait des affaires qui, dans le fond, étaient fausses. Mais si on s'en tient à des théories, qui dit que 1 plus 1 égale 2, là, on peut faire de la philo, puis ils disent non, blablabla. Mais tu sais, dans la vraie vie, les mathématiques, c'est quand même une voie de vérité objective. Là. Puis il y a d'autres fois où est-ce que tout ce qui est la gestion de la société, etc., on n'est pas dans la vérité. Sauf que quand tu es dogmatique, ce sera mon dernier point par rapport à la question à Chloé, quand tu es dogmatique, tu es constamment en train de faire une opinion de vérité. Donc si tu crois en Dieu, puis que tout passe par le prisme de la Bible, pour toi, ce n'est pas une opinion, c'est une vérité. La réalité, c'est que ça ne se prouve pas. Puis, tu es donc uniquement dans ce qu'on appelle une croyance. Ce n'est pas une opinion, là, à la rigueur, là, mais c'est une croyance. Si ton sujet de prédilection, c'est la vérité, à quelque part, tu es supposé être libre penseur, puis pas t'arrêter à être dogmatique de rien. Tu n'es pas supposé, si tu cherches la vérité, être offensé par les propos de droite, les propos de gauche, les propos libertariens, les propos communistes. Il n'y a rien à la base de ça qui est littéralement faux. Rien. C'est toutes des affaires qui se peuvent, ça dépend du contexte. Ça fait que la vérité puis l'opinion, à ce moment-là, elle se promène d'un à l'autre quand on ne sait pas reconnaître ou quand on est, à quelque part, sans s'en rendre compte, de mauvaise foi, puis qu'on est convaincu que notre prémisse va toujours être l'affaire la plus importante et non pas la conclusion. C'est vraiment là où vous pouvez voir les erreurs de raisonnement. Moi, je me suis inquiété de ce qu'on faisait. Souvent, j'avais dit ça en ondes. J'avais dit, moi, c'est rare que tes conclusions, je suis complètement contre. C'est ton raisonnement. C'est moi, je t'arrête en cours de route quand tout à coup, tu me dis, hop, hop, hop. Tu sais, un jour, là, il est arrivé un incident. Il y avait un gars qui a fait une prière. Il avait reçu une vidéo d'un gars qui a fait une prière, sorti son tapis à côté du château Frontenac, etc. T'sais. Puis là, j'ai dit, ouais, moi, je m'en fous. C'est un hurluberlu. Il y en a. Tu sais, quand l'autre fois que tu as vu ça, t'en verras peut-être plus. On s'en claque. J'haïs même plus le gars chaud qui casse ma vitre avec sa bouteille de bière à 3 heures du matin que l'autre qui fait une prière sur son tapis. Je veux dire, je sais qu'il y a une sensibilité, blablabla. Puis là, il part, puis il dit, ouais, mais on vient de passer une loi pour régir les signes religieux, puis la religion dans l'espace public. Là, j'ai fait, hop, là. Non. Loi 21. Signes religieux pour les employés de l'État, les professeurs, les juges, le procureur de la couronne, la police. Mais là, lui, vois-tu, si je le laissais flyer, bien, sa prémisse devenait une vérité, mais c'est faux. C'était pas vrai, il faisait une erreur. Fait que j'avais parlé de ça, tu sais, puis ça avait fait un débat intéressant, comme on faisait tout le temps, tu sais. Puis des fois, c'est moi qui faisais l'erreur, là, on se comprend. Là, il n'y a personne qui est tout le temps genre, ah, voilà, moi, quand je parle, ce n'est que des faits. Puis, parce que tu ne peux pas anyway. Les opinions, c'est important. C'est ce qui fait qu'il y a une communication. Si on était toujours dans les faits, on serait tout le temps. Moi, je connais des gens qui ne sont jamais en train de se compromettre de rien. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas avoir d'opinion. C'est tout le temps juste oui, non, peut-être. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il n'y a plus de communication s'il n'y a pas d'opinion. Ça fait qu'il ne faut pas en vouloir aux opinions. Mais la question à Chloé est intéressante, c'est quand est-ce qu'on démêle l'opinion d'un fait? Ben, les gens, pour terminer, je vous dirais, les gens qui mêlent les deux vont avoir tendance à ne pas aimer la vérité. Dans le cas là, que Chloé me donne plus en détail, c'est une conversation avec sa mère, puis que finalement, elle dit « Non, c'est une opinion ton affaire par rapport au fait qu'il y a des infections, etc. » Ben non, ce n'est pas des opinions. Je veux dire, à un moment donné, c'est peut-être que tu n'aimes pas la vérité de ça. Si je suis climato-sceptique, j'aime pas... Regardez aujourd'hui, là, on a appris hier dans la presse qu'il y a un fonds d'investissement en Norvège qui a banni 4 compagnies qui font affaire dans les sables bitumineux au Canada. Puis ça, c'est des fonds là, qui mettaient du gros cash. Là. C'est que là, eux autres, là, ils ont fait comme « Non, nous autres, on ne met plus une scène là-dedans. » Parce que vous ne respectez pas ce que nous autres, on considère essentiel, c'est de toujours être à la moyenne ou en bas de la moyenne internationale des gaz à effet de serre. Puis ça fait depuis 2017 qu'on vous le dit, puis manifestement, vous tournez autour du pot. Aujourd'hui, on retire nos billes. Ça fait que c'est clair que si tu choisis d'être climato-sceptique, chaque jour, tu es un peu plus dans le camp des losers. Alors que tu sois convaincu ou pas, je m'en claque, je te fais juste parler même sur le pur plan capitaliste de la chose. Quelqu'un qui dit « Moi, j'y crois pas, puis je veux le conduire mon pick-up, puis il faut des blablabla. » Vous êtes dans le camp des losers. Vous êtes dans le camp que vous avez choisi d'être dans le camp des perdants. Là, c'est rendu que les gens retirent leur billes, les investisseurs, t'imagines-tu, sont là pour le cash. Puis ils font comme « Non, c'est zéro ton affaire. On a choisi d'avoir des critères qui étaient autres que juste profit et perte. » Ça fait que, comprends-tu que là, à ce moment-là, ça t'écœure la vérité que c'est un cul-de-sac d'être climato-sceptique. Toutes les forces économiques, politiques et sociales sont constamment contre toi. C'est que tu peux te rebeller, puis sortir, puis faire une parade, puis avoir l'impression que là, oui, non, peut-être. Mais dans la vraie vie, là, c'est que tu te bats contre des moulins à vent avec une ressource en plus qui est pas renouvelable. Un jour, il n'y aura juste plus de pétrole. Point barre. Il n'y aura pas une deuxième terre où on va en piger, là, on se comprend. Ça fait que là, à ce moment-là, la vérité à tes cœurs. Ça fait que tu peux avoir tendance à vouloir transformer ça en opinion, puis là, sortir toutes les petites études qui contredisent ça, etc., pour démontrer que ce qui est comme tel une vérité, c'est-à-dire actuellement, il y a une tendance claire à l'effet que tout ce qui est pétrole, c'est les prix drop, socialement, c'est pas acceptable, etc., tu peux penser que l'univers se trompe, mais il reste que ça, c'est une vérité. Cette tendance-là, elle est vraie. Elle est mesurable. Mais tu peux la transformer en opinion en pensant que les gens ont tort ou whatever. Alors, j'espère que ça a donné un petit peu mon point de vue par rapport à ça. C'est des sujets que je trouve fascinants, qui sont des fois un peu pointus. Mais c'est intéressant. C'est que si vous avez des réactions là-dessus, faites comme d'habitude, écrivez-moi, c'est toujours cool. Et puis, voilà. Ça fait que c'était ce que j'avais à répondre à cet épineux parfois. Des fois, ça a l'air tout clair. Ah, c'est pour ça que j'aimais beaucoup sa question à Chloé. C'est comme opinion, puis vérité. Non, c'est facile à distinguer. Ben non, voyez-vous. J'ai donné 3-4 exemples où est-ce que, à quelque part, on peut comprendre pourquoi ça peut être mêlant. Puis on peut comprendre que des gens qui suivent ça d'un œil distrait aussi peuvent voir des opinions ou des faussetés comme des réalités. On est dans une époque avec Internet où on est en plein là-dedans. J'aimerais ça vous dire, ah, c'est ça, ce serait le fun, ça pourrait aider si on faisait ça, je sais pas c'est quoi. À vrai dire, je vais finir là-dessus. Je pense que ce qui peut aider à trouver la vérité, c'est quand deux personnes aux opinions opposées, même s'il y en a une qui est farfelue, sont mises ensemble. Moi, je pense que Eric et moi, ce qu'on faisait qui était vraiment intéressant, c'était on montrait qu'on pouvait débattre sur des sujets très pointus sans jamais s'insulter, tu vois, même pas passer proche. Puis deuxièmement, que quelqu'un dans le char pouvait effectivement penser A au début, puis après ça, penser B après, ce qui, règle générale, arrive jamais. Jamais, jamais, jamais. Les gens ne changent pas d'idée dans la vie, c'est rare, là. Ça fait que ça peut arriver juste s'il y a quelqu'un en face qui répond à quelque chose, puis que c'est intelligent, puis que c'est intelligible. Ça fait que s'il y a une solution à opinion versus vérité, je pense que c'est de pouvoir confronter les deux. Puis à ce moment-là, il y a quelque chose qui ressort de là, puis tu souhaites que ce soit la meilleure des deux affaires. Ciao, bye!